Le réseau Cogeco vous présente Mythes et complots.
Mythes et complots.
Phénomènes étranges et inexpliqués. Histoires insolites. Énigmes non résolues. Avec l'enquêteur du paranormal, Christian Page et Jeffrey Soubrani.
Bienvenue à Mythes et complots, troisième émission où on va traiter des sensitifs. Et cette fois-ci, Christian, on va s'attarder aux guérisseurs.
Absolument. Donc, il faudrait peut-être aussi dire aux gens qu'est-ce qu'un sensitif.
Oui, absolument.
Parce que c'est quand même, c'est la troisième semaine qu'on utilise cette expression. Pour beaucoup de gens, il y a une sorte de mélange lorsque l'on parle sensitif, voyant, médium. Alors, dans l'univers de la parapsychologie, l'étude des phénomènes paranormaux, on essaie de faire une distinction entre les médiums et les sensitifs. Donc, les médiums, puis moi-même, au cours de l'émission, je risque d'utiliser le terme médium, mais pas dans le sens que je vais l'expliquer maintenant. Ouais. Donc, on essaie de dire, bon, les médiums, essayons de réserver cette expression pour parler de gens qui ont la prétention de pouvoir communiquer avec les défunts. Donc ça, ce sont des médiums. Les autres personnes, dont ceux qui ont une espèce de perception extrasensorielle, qui sont capables de voir des choses, qui ont des visions d'événements, on a une tendance, de façon populaire, à dire que ce sont des médiums, mais on préfère, dans l'univers de la parapsychologie, comme je l'ai dit, on préfère les appeler des sensitifs. Donc, des gens qui reçoivent une information, qui décodent une information en dehors de leurs cinq sens connus, comme s'ils avaient un sixième sens qui leur permettait d'avoir cette information. Donc, ce sont des sensitifs. Et tu l'as mentionné, aujourd'hui, on a déjà parlé au cours des deux dernières semaines précédentes, parce que c'est un sujet qui est excessivement... Il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Oui. C'est très complexe comme sujet. Donc, on a eu une première semaine où on a parlé notamment de ces sensitifs qu'on avait testés en laboratoire. Et en particulier, on a parlé un petit peu à ce moment-là du projet Stargate, un projet mis de l'avant par les autorités américaines dans les années 70 pour utiliser de ces sensitifs pour faire ce qu'on appelle de la vision à distance. Donc, ils faisaient en fait de l'espionnage pour le compte des services de renseignement.
Le remote viewing.
Remote viewing, en utilisant cette habilité qu'ils avaient de pouvoir voir dans d'autres lieux en restant confortablement assis dans un bureau au Pentagone. Et puis ensuite, cette semaine, on en a encore reparlé la semaine dernière, on a parlé également de l'utilisation de ces sensitifs dans le cadre d'enquêtes policières. Et la semaine passée, il faut le souligner, on a eu la chance d'avoir ici avec nous, là, parlé en ligne téléphonique, Monsieur X, oui. qui est ce sensitif qui, parce qu'il a marqué une partie un peu de l'histoire des phénomènes paranormaux au Québec. On se rappelle, en novembre 84, le 1er novembre 84, trois enfants avaient disparu à Montréal, Wilton Lubin, Sébastien Métivier et Maurice Vien. Et deux jours après la disparition, à ce moment-là, on ne savait pas si on parlait d'un même ravisseur ou de trois ravisseurs ou de deux ravisseurs différents. Alors, à ce moment-là, alors que les équipes de bénévoles se mobilisaient partout en province pour essayer de trouver des indices et retrouver ces enfants, un sensitif de la couronne nord de Montréal a été approché par des bénévoles. Parmi ces bénévoles, il y avait un hypnothérapeute. Donc, cet hypnothérapeute a placé notre Monsieur X dans un grand état de relaxation. Et à partir de là, faut dire que ces deux bonhommes-là avaient travaillé ensemble l'année précédente.
Mais ça, on l'avait pas spécifié la semaine passée à l'émission. C'est très intéressant comme information. Donc, l'histoire de Monsieur X, dont vous pouvez entendre l'entrevue sur le site Internet, pour se rendre dans cet état de relaxation et de méditation très profonde avec laquelle il a réussi à avoir une vision d'où se trouvait le corps de Maurice Vien, il a eu l'aide d'un spécialiste.
Donc, c'est ça. Donc, à ce moment-là, il y avait un hypnothérapeute qui venait de Beauport, avec lequel les deux bonhommes avaient travaillé ensemble en 1983. Il y avait une fillette, je le rappelle, qui avait disparu du parc des Voltigeurs à Drummondville. Et à ce moment-là, cet hypnothérapeute qui connaissait ce monsieur X, il dit, essayons d'utiliser la relaxation, là. On n'est pas dans un état d'hypnose, hein. C'est pas encore, entre guillemets, la transe hypnotique, là. On se prend pas pour Elvis, puis on joue pas aux chiens comme dans un spectacle de Mesmer, là. Tu comprends? On est simplement dans un très grand état de relaxation. Et à partir de cet état de relaxation, on va suggérer donc à ce sensitif de voir, de focaliser son esprit sur un événement. Et c'est un peu ce qui avait été fait en 1983 au Parc des Voltigeurs avec la disparition de Mélanie Dequin. Et c'est ce qui a été refait cette fois en novembre 84. Et toujours dans cet état de très, très grande détente, M. X a été en mesure de fournir des informations qui a aiguillé éventuellement ses bénévoles vers un lieu à Saint-Antoine-sur-le-Richelieu, un lieu dans lequel où ils ont trouvé le corps du petit Maurice Vien. Donc, on avait la semaine dernière ici en téléphone avec nous ce M. X. C'est assez amusant parce que tu sais que j'ai écrit à plusieurs, je connais bien M. X, et je réitère parce que j'ai vu ça, c'est un truc qui a encore circulé un peu sur les médias sociaux après l'entrevue, des gens qui suspectent, oui, mais ce type-là semblait tellement connaître de choses, est-ce qu'il ne pourrait pas être quelque part lié au crime? Non, M. X n'a rien à voir dans la disparition de Maurice Vien, je le réitère.
Ça a été prouvé par une enquête
de police, donc il n'y a aucun doute là-dessus. Ce qui est assez amusant, c'est qu'il y a un article qui accompagne qui a été placé sur la page du 98.5 FM, et il y a quand même un petit bémol que je vais ajouter par rapport à cet article-là. On focalise beaucoup sur un suspect, un homme qui avait été arrêté pour des crimes et qui se serait suicidé en prison.
Oui, à la Macasa.
Et cet individu-là, à un moment donné, on le suspectait d'être l'agresseur du petit Maurice Vien. Et c'est vrai que les policiers disaient, lorsqu'on abordait cette question-là avec lui, il semblait très nerveux, tout ça. Mais j'ai appris cette semaine d'une autre source, une source relativement sûre, que cet individu-là n'est plus sur la liste des suspects dans l'assassinat de Maurice Vien. Donc, l'assassin officiellement court toujours, et on m'a même informé...
S'il n'est pas mort,
et on m'a même informé que les autorités avaient son ADN.
Okay.
Donc, les services de police ont son ADN. Donc, ça, c'est une information toute nouvelle. Je vous donne un peu le scoop. Je voudrais bien vous dire qui m'a donné l'information, mais j'ai pas son autorisation, donc je m'avancerai pas là-dessus. Mais c'est une information qui est relativement sûre, là, ce que je te dis. On est pas sûr à 100%, mais généralement, cet individu-là est bien informé avec les milieux policiers.
Penses-tu que la Sûreté du Québec pourrait être intéressée à faire appel à M. X pour tenter de retrouver... l'assassin.
Mais tu sais que dans le cas de M. X, c'est toujours un peu la même problématique. C'est également la problématique qu'on a retrouvée avec le projet Stargate. Hein. On l'a mentionné, lorsque les autorités américaines et services de renseignement ont abandonné officiellement en 1980 le projet Stargate, c'est parce que c'était trop instable. Parfois, les sensitifs donnaient une information qui était qualitative, qui permettait une vérification sur le terrain. Et à d'autres moments, ce n'était pas significatif. Alors, dans le cas de M. X, est-ce un coup du hasard? Écoute, les gens diront que ça semble invraisemblable. Combien de chances avait M. X de fournir ces informations pour qu'éventuellement il puisse guider ses bénévoles vers le lieu? Alors, si tu me dis, Jeff, une chance sur 14 millions, je te dirais c'est exactement le nombre de chances que tu as de gagner le 649. Et pourtant, chaque semaine, il y a quelqu'un qui gagne le gros lot. Donc, oui, les probabilités du hasard restent là, même si ça nous semble très invraisemblable.
Bon, je ne veux pas entrer dans les détails, mais juste pour fermer la parenthèse, il se peut que les voyants, lorsqu'ils arrivent à certains exploits, aient un intérêt profond pour une situation donnée.
Oui. Donc, et ça, c'est un peu le débat. On l'a à peine abordé la semaine dernière. Mais c'est vrai que lorsque l'on regarde dans la littérature, et c'est un peu le débat entre les croyants et les sceptiques. Ne tirez pas sur le messager. Là. Moi, je ne suis que le journaliste qui présente la chose. Tu sais que dans cet univers-là, il y a toujours un peu ce bras de fer entre les croyants et les sceptiques. Et je dirais qu'il y a deux approches. Il y a une approche que je dirais positiviste, une approche négationniste. L'approche négationniste, c'est celle que va favoriser les sceptiques en disant ces voyants-là, quand on les a testés en laboratoire, ces sensitifs-là, ils ont échoué lamentablement les tests de laboratoire. Donc, on avait caché des objets dans des boîtes, on leur a demandé de deviner quels étaient ces objets, on avait placé des photographies dans des enveloppes scellées, on leur a demandé de dire que contenaient les enveloppes, et ils ont échoué. Alors que sur le terrain, on a toujours l'impression que ça fonctionne à tous les coups et c'est tout à fait merveilleux, c'est fantastique. Alors pour les sceptiques, la raison pourquoi ça fonctionne mieux sur le terrain que dans le laboratoire, c'est parce que sur le terrain, c'est plus facile de tromper les gens. Hein, on a notre attention tournée à gauche, à droite, et là, soudainement, notre voyant arrive puis il nous dit quelque chose, puis on a l'impression bon qu'il vient de sortir ça de l'au-delà, alors qu'il vient d'entendre un policier 15 mètres plus loin qui en parlait. Donc tu vois, donc, il y a une possibilité, c'est vrai que c'est plus facile de truquer. Et ça, je l'accorde aux sceptiques. Sur le terrain, la fraude est beaucoup plus facile que dans un contexte de laboratoire. Mais en revanche, tu as l'école positiviste qui, elle, dit attention, peut-être que c'est le contexte qui favorise l'apparition de ces manifestations. Et on donne l'exemple, faut pas l'oublier, ces voyants-là, ces sensitifs, ce sont des humains. Or, prenons l'exemple, Jeffrey, de toi qui travaillerais à un emploi très routinier que tu fais depuis des années. C'est toujours le même emploi, c'est toujours les mêmes actions que tu fais jour après jour. Oui. Et soudain, malgré que tu fais très bien ton travail, que tu le connais très bien, soudainement, ton patron arrive et il se tient derrière toi.
Il t'observe.
Alors, soudainement, tu vas commettre erreur par-dessus erreur et tu vas dire...
Tu
ne performes plus. Et là, pourtant, quand il n'est pas là, ça va bien. Or, est-ce que les sensitifs, ce sont des humains, c'est du matériel humain, est-ce que les sensitifs réussiraient mieux sur le terrain parce que le contexte est différent? Tu es en présence des policiers, tu es en présence des parents dont l'enfant est disparu. Il y a une charge émotive.
Absolument.
Et est-ce que cette charge émotive ne favorise pas l'apparition de ces perceptions extrasensorielles, alors que dans un laboratoire avec un laborantin qui tape du pied avec son bloc-notes et son stylo, évidemment, il n'y a rien là-dedans qui va favoriser les effluves pour pouvoir performer. Donc, les deux écoles marquent un très bon point. Oui, les sceptiques ont raison en disant que c'est beaucoup plus facile de frauder sur le terrain. Et d'un autre côté, les gens qui abordent la position positiviste ont également raison en disant peut-être que le contexte favorise l'expérience.
Absolument. Quand tu es intéressé à quelque chose, c'est sûr que c'est plus important.
Voilà. On va mieux performer.
Ouais. En laboratoire aussi, ça devient répétitif. On a demandé à plusieurs sensitifs de se présenter dans plusieurs laboratoires pour la même expérience.
Et tu as tout à fait raison, Jeff, là-dessus. Mon Dieu, tu me prends de vitesse. Effectivement, on avait demandé, c'est un peu pourquoi aussi dans le milieu de la parapsychologie, on a abandonné cette approche-là. Au début, dans les années 60, on favorisait les surdoués du psy. Donc, des gens qui étaient reconnus pour avoir des habiletés extraordinaires. Et ce qu'on a constaté, évidemment, il y aura toujours la critique, ça prête flanc la critique en disant « Oui, mais moi, j'étais pas là lorsque cette expérience-là a été menée. » Fait que là, on avait, par exemple, le type qui avait un don de voyance. Il faisait une performance, c'était extraordinaire, ça semblait aller au-delà des règles du hasard. Mais là, comme il s'était critiqué, on le refaisait l'expérience dans le laboratoire B, laboratoire C, laboratoire D. Et à un moment donné, il y a une espèce de lassitude qui intervient. Et le sensitif, il y en a un petit peu rôle-pompon.
Oui.
Puis quand il y en a rôle-pompon, là rapidement, on voyait que ses performances chutaient.
Donc,
et chutaient biaise, au niveau du hasard.
Ça biaise ces données-là en laboratoire.
Absolument, absolument.
Christian, aujourd'hui, on va vous présenter une expérience scientifique. Dans un instant, on va parler de guérison miraculeuse également. Est-ce que vous croyez aux guérisseurs? Est-ce que vous en connaissez un dans votre entourage? Un oncle, une tante, un voisin reconnu pour ses pouvoirs d'arrêter le sang ou le mal de dents?
Oui, absolument.
Il y a même notre productrice qui nous parlait d'un membre de son entourage qui disait pouvoir faire disparaître les bosses. Alors,
les
guérisseurs aujourd'hui à Mythe et Complot sur le réseau Cogeco. On revient dans à peu près 2 minutes.
Au réseau Cogeco, vous écoutez Mythe et Complot avec l'enquêteur du paranormal, Christian Page et Jeffrey Soubrani.
De retour à Mythe et Complot, Christian, en passant la nuit dernière, j'ai rêvé à toi.
Oh. ça va être inquiétant.
Mes rêves sont assez paisibles, pas de cauchemars. Alors, ce qui s'est passé, c'est simplement, je rentrais dans un restaurant dans la ville de mon enfance, Saint-Gabriel de Brandon, et t'étais là, et on s'est salué.
Ah.
Puis ensuite, c'est passé un autre rêve, une autre séquence, probablement. Tu vois que c'est assez paisible quand même, mais mes rêves sont faciles.
C'est drôle, j'ai pas la même... Quand une fille, une femme me dit « j'ai rêvé à toi, Christian », j'ai pas la même réaction du tout. Allons-y avec les guérisseurs, si tu veux.
Oui, alors, de retour avec les guérisseurs. On parle depuis 3 émissions maintenant des sensitifs, les gens qui ont des perceptions spéciales, des dons paranormaux, que ce soit la télépathie, la voyance, et là, le don de guérir.
Voilà.
Et une expérience scientifique par rapport aux guérisseurs, celle du docteur Bernard Grade.
Oui, en fait, Bernard Grade, qui est décédé en 2010, Il était âgé, je crois, de 91 ans, un truc comme ça. Donc, c'est un individu qui a marqué la littérature sur les phénomènes paranormaux. Mais on parle ici d'une littérature à caractère scientifique. Là, c'est pas des trucs genre astrologie bon marché populaire. Là. Vraiment, c'est un type qui s'est intéressé dès les années 50. Faut dire que quand il était jeune, il avait été atteint de différentes maladies. Il était de santé fragile et il s'était intéressé à tous ces phénomènes dits de l'énergie. Hein, il a même été aux États-Unis étudier avec un type qui est devenu son mentor, qui s'appelait William Reich, qui lui imaginait une sorte d'énergie subtile, invisible, qu'il appelait l'orgone. Éventuellement, tout ça a été discrédité, mais on voit quand même un peu ce cheminement de Bernard Grade. Donc, Bernard Grade, on le retrouve, là, pour les besoins de notre discussion d'aujourd'hui, on le retrouve dans les années 50. Il est un oncologue. Il travaille principalement sur les systèmes humains. Immunitaire, voilà, ouais. Pardon. Et il est à l'Université McGill. Et comme il s'intéresse à ces phénomènes d'énergie, autour de lui, on en parle, il décide de mener une expérience. Une expérience qui est excessivement intéressante, comme tu vas le voir, parce que elle exclut la possibilité d'une suggestion. Parce que c'est souvent ça, tu vas voir un guérisseur, il va te faire une sorte de toucher thérapeutique et soudainement tu dis ben je me sens mieux, mais est-ce que tu te sens réellement mieux ou est-ce que c'est un effet un peu placebo qui fait que tu te sens mieux? Alors dans le cas présent, donc notre docteur Grade fait appel à un guérisseur bien connu à Montréal à la fin des années 50, au début des années 60. C'est le colonel Oscar Estebani. C'est un Hongrois. Il a fait partie des milices hongroises durant la Première Guerre mondiale. Et ce Oscar Estebani est connu du tout Montréal pour ses dons de guérisseur. Alors, ce docteur Grade décide de prendre un groupe de 48 souris. Il va les raser sur le dos et faire un prélèvement, donc une espèce de biopsie sur le dos de chacun des rongeurs. Et il va les séparer en trois groupes de 16. Et donc, on aura un premier groupe. Donc, chaque souris est placée, bien sûr, dans une cage individuelle. Et il y aura donc un groupe de 16 qui est placé comme ça, sur des étagères et qui sont laissées à elles-mêmes. Donc, ces souris restent dans leur cage et elles deviennent un peu le modèle étalon. Ensuite, on aura un autre groupe de 16 souris dont les cages seront manipulées deux fois par jour, 15 minutes durant, par des laborantins. Donc, des gens qui n'ont pas de prétention d'être des guérisseurs, qui sont des associés, des acolytes du docteur Grade. Et puis, enfin, on aura un troisième groupe de 16 souris qui, elles, seront manipulées, là aussi, deux fois par jour, 15 minutes durant, par Oscar Estebani. Quand je dis les souris manipulées, on comprend qu'on ne les prend pas dans les mains. On ne fait que prendre la cage, on manipule la cage avec la souris à l'intérieur. Et très rapidement, après deux semaines, on constate visuellement, pas quelque chose là, qui nécessite une analyse au microscope, on voit, après deux semaines, très clairement que les souris du groupe manipulé par Oscar Estebani présentent une cicatrisation plus rapide que les autres souris manipulées par les laborantins et les autres souris laissées à elles-mêmes. D'ailleurs, les souris laissées à elles-mêmes et le groupe manipulé par les laborantins présentent à peu près un niveau de cicatrisation à peu près identique. Donc, on voit que la dite chaleur humaine n'a pas vraiment d'effet ici parce que les deux groupes sont identiques. Mais celle manipulée par Oscar Estebani, elle présente visiblement une guérison plus rapide.
Je rappelle que Estebani ne les touche pas directement.
Non, il ne prend que la cage entre ses mains et manipule la cage.
Donc, c'est comme s'il envoyait une forme d'énergie.
Moi, je me rappelle, j'ai eu la chance de rencontrer Bernard Grade à quelques reprises. J'ai même fait deux émissions avec lui. Et je me rappelle, peut-être des gens se rappelleront, j'avais fait une émission à l'époque, c'était sur la télé communautaire. Ça s'appelait Enigma. J'avais reçu le docteur Grade. Et je me rappelle le mot clé, c'était énergie. Il répétait continuellement, c'était comme de l'énergie. Mais quelle est la nature de cette énergie? Oui. On n'a pas d'outils pour la mesurer. Mais c'est comme si Oscar Estebani envoyait de l'énergie. Ici, il faut comprendre également que l'expérience a été menée avec Oscar Estebani entre 1957 et 1961. Ce n'est pas une expérience qui a été faite une seule fois. On aura fait ça à quelques reprises. toujours avec des résultats positifs, toujours à peu près dans le même sens. C'est vrai toutefois qu'au début des années 60, la parapsychologie avait meilleure presse qu'elle ne l'a aujourd'hui. Alors même à cette époque, lorsque Bernard Grad, qui on le rappelle, est un oncologue, un scientifique reconnu, qui avait toutes les formations académiques nécessaires, lorsqu'il parlait de ses expériences menées à l'Université McGill, il y avait quand même un peu une levée de bouclier. Aujourd'hui, ce serait impensable de mener une expérience comme celle-là dans un cadre universitaire comme l'Université McGill, tellement les phénomènes paranormaux ont mauvaise presse aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, il a fait cette expérience-là, ce qui ne l'a pas empêché d'avoir certaines critiques. Bien sûr, on a accusé Grad d'avoir utilisé un trop faible échantillonnage pour pouvoir tirer des conclusions définitives. 48 souris, disait-on, c'était pas suffisant et qui plus est, un groupe de 16 seulement manipulé par Oscar Estebani. Alors, Bernard Grad a pris la critique au pied de la lettre. Il aura fait l'expérience, cette fois, à l'Université de Winnipeg, à l'Université du Manitoba à Winnipeg. Il a utilisé, cette fois, 300 souris, trois groupes de sang, dont un groupe de sang manipulé deux fois par jour, 15 minutes durant, par le même Oscar Estebani. Et là encore, les souris manipulées par Oscar Estebani présentait un niveau de cicatrisation plus rapide que les autres souris des groupes étalons.
Et il y a eu d'autres expériences similaires avec, par exemple, des salamandres.
Oui, avec des salamandres. Et là, c'est amusant parce que dans le cas des salamandres, on a pris un peu le même principe. Et là, on parle d'une expérience menée en 1991 par des chercheurs en Californie. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des salamandres, une salamandre particulière qu'on appelle le triton d'Amérique. Et on sait que chez le triton d'Amérique, si on coupe un doigt, par exemple, ça peut paraître cruel, là, mais le doigt va repousser.
Oui.
Alors, ce que l'on a fait, on a utilisé 154 salamandres auxquels on a coupé un des doigts. Et ensuite, ces salamandres ont été divisés en plusieurs groupes et un de ces groupes était manipulé par des gens qui avaient la réputation d'être des guérisseurs. Et effectivement, encore une fois, donnant le ton aux expériences menées par Bernard Grad, après deux semaines seulement, les salamandres qui avaient été manipulés par des guérisseurs présentaient un taux de repousse du doigt plus rapide que les autres groupes, autant celles qui avaient été manipulées par les laborantins que celles laissées dans les cages.
Donc, on a quand même plusieurs expériences scientifiques officielles.
Absolument.
Qui démontrent que un don de guérisseur pourrait peut-être
Il y a quelque chose qui se passe, ça c'est certain.
On observe quelque chose.
Ouais, voilà.
Christian, on revient dans un instant, on va parler de guérison miraculeuse et notamment du frère André, évidemment.
Bien sûr.
Dans à peu près deux minutes sur le réseau Cogeco, vous écoutez Mythes et complots.
Apparition, possession. Christian Page nous explique l'inexplicable au réseau Cogeco.
Et je rappelle que vous pouvez interagir avec nous via Mythes au pluriel à commercialcogecomedia.com 1-866-790-9850 également. Aujourd'hui, on parle des guérisseurs et on parlait juste avant la pause des expériences du docteur Bernard Grad. Revenons-y un peu, Christian.
Oui, juste avant de passer à nos thaumaturges, donc les gens qui font des miracles, je voulais te mentionner que dans le cas des expériences menées par Bernard Grad, il utilisait ce sensitif qui était Oscar Estebani. On a parlé des expériences menées avec les souris, mais le docteur Grad a fait d'autres expériences et pas toujours avec Oscar Estebani, mais dans le cas d'Estebani, à un moment donné, l'une des expériences que moi j'avais trouvé très intéressante, c'était à propos de l'eau. Donc, on avait pris de l'eau qu'on avait placée dans des bacs et il y avait un de ces bacs qui avait été manipulé par Oscar Estebani et deux autres bacs, un qui était simplement l'eau du réservoir et un autre bac qui avait été manipulé par des laborantins. Et à partir de cette eau-là, bien sûr, on a arrosé des plantes et crois-le ou non, les plantes arrosées avec l'eau qui avait été manipulée par Oscar Estebani, après deux semaines, connaissaient une pousse plus vigoureuse, plus forte que les autres plantes arrosées, soit par simplement l'eau du réservoir ou l'eau manipulée par les laborantins.
Et toutes ces expériences-là scientifiques sont documentées?
Bien sûr, on a les comptes rendus parce que ça a été fait dans des conditions rigoureuses. Donc, il y a les comptes rendus de ça qui ont été publiés. Si on se donne la peine de chercher un peu, on va retrouver non seulement les protocoles utilisés, mais également des images qui vont montrer l'expérience et l'évolution de l'expérience elle-même.
Et parlant de choses qui sont documentées, dans l'Église, Christian, il y a les miracles.
Et ça, c'est amusant parce que quand on parle de miracle, quand on, bien sûr, on parle
l'Église catholique,
oui, on parle de l'Église catholique, et bien sûr, quand on parle de miracle, évidemment, on, tu sais, Jeffrey, que dans le domaine du paranormal, l'une des grandes raisons pourquoi le paranormal a si mauvaise presse, ou à tout le moins si mal accueilli, une telle résistance auprès de la communauté scientifique, c'est parce que le paranormal flirte sur bien des aspects, il flirte avec le religieux.
Oui.
Prenons par exemple cet Oscar Estebani qui dit avoir le pouvoir de guérir. Donc lui, il dit, voilà, je guéris, j'ai un pouvoir. Et prenons ensuite un thaumaturge qu'on connaît bien ici dans la région de Montréal, le frère André. Il suffit de visiter, par exemple, l'oratoire Saint-Joseph pour voir le nombre de marchettes, de cannes, bon, d'appareils orthopédiques qui sont accrochés sur les murs et qui nous rappellent ce don de guérisseur qu'avait Alfred Bessette, dit le frère André. Or, ce pouvoir, dans le cas du frère André, lui disait « c'est Dieu qui interagit à travers moi ». Donc, c'est d'ailleurs l'étymologie du mot « thaumaturge », ça veut dire que Dieu opère à travers. Donc, le thaumaturge, c'est ce guérisseur, un pouvoir que Jésus avait, bien sûr. Hein, on se rappelle qu'il a guéri l'aveugle, bon, etc. Ces miracles que Jésus faisait, ben, si on écoute l'Église, ce même pouvoir est donné, attribué à certaines personnes qui ont une vie sainte, et c'est le cas du frère André.
Et le frère André a commis des miracles ou a participé à des miracles reconnus officiellement.
Absolument.
Peux-tu donc nous en raconter
oui,
un?
Oui, ça c'était intéressant parce qu'on sait que le frère André, aucun des miracles, bon, de son vivant, il était un thaumaturge, donc un homme qui était reconnu pour faire des miracles et des miracles de guérison. Sa première guérison, dit-on, remonte à 1877. Bon. Mais ces miracles-là ne sont pas reconnus au point de... ne reposent pas sur sa béatification et sa canonisation. Ça, c'est assez amusant.
Donc,
parce
à ce moment-là, ça ne peut pas être officiel selon le Vatican.
Voilà. Donc, ces miracles-là, ils sont rapportés, ils deviennent anecdotiques, mais bien sûr, le frère André a été béatifié et canonisé. Il a été béatifié en 1982. Il est donc devenu le bienheureux frère André. Et ensuite, il a été canonisé en 2010. Et là, il est le Saint-Frère André. Donc, ouais. Pour passer de l'étape de la canonisation et de la béatification, il faut qu'on lui reconnaisse un miracle à chaque fois. Et ce sont des miracles, finalement, post-mortem. Dans le cas du miracle du frère André, celui qui a servi à sa béatification en 1982, c'était un miracle qui remontait à 1957. Donc, on est une vingtaine, 25 ans après la mort du frère André à ce moment-là. C'est un Américain qui était atteint d'un cancer du foie qui s'était généralisé. Il était condamné. Les pronostics de son médecin étaient clairs. Il ne lui restait que quelques mois à vivre. Cet homme-là avait une dévotion pour le frère André. Il s'est rendu à l'oratoire Saint-Joseph. Il s'est recueilli sur la tombe du frère André et il a connu une rémission de la maladie foudroyante et il en a été guéri. Les médecins n'ont pas expliqué cette histoire-là. Ils n'ont pas trouvé d'explication. Et bien sûr, comme il n'y a pas d'explication, l'Église, parce qu'il faut se rappeler que l'Église n'est pas naïve lorsqu'on parle de miracle. Au contraire, elle s'est mis des filtres extraordinaires avant de reconnaître un miracle. Et dans le cas présent, donc après toutes les études, on parle quand même, dans ce cas-là précis, 9 médecins se sont penchés sur son cas. On parle d'un rapport de 966 pages et 150 radiographies qui ont été présentées dans le dossier pour que l'Église reconnaisse qu'il y avait eu un miracle. Et comme ce miracle s'est produit dans un contexte religieux lié au frère André, l'Église l'a reconnu comme étant un miracle post-mortem du frère André. Et c'est ce miracle qui, en 1982, a été accepté pour béatifier le frère André, qui est devenu le bienheureux frère André. Et puis, en 2010, on a utilisé un autre miracle pour le canoniser, pour faire de lui le saint frère André. Et cette fois-là, on a utilisé un événement qui s'était produit en 1990. On avait un petit garçon qui était hospitalisé. Il souffrait de lésions cérébrales importantes. Il était dans le coma et le pronostic était également très sévère, très mauvais. On ne croyait pas que l'enfant sortirait de son coma. Et puis, les parents se sont rendus sur la tombe du frère André, qui était à l'oratoire. Ils se sont recueillis sur la tombe et instantanément, cet enfant à l'hôpital s'est réveillé et très rapidement, il a connu une guérison sans aucune séquelle. Une guérison pour laquelle les médecins n'ont pas trouvé d'explication. Alors, ce deuxième miracle post-mortem, hein, faut bien le préciser, post-mortem, a été attribué au frère André. Mais quand on parle des thaumaturges, là, ici, on parle d'un mécanisme de l'Église, ouais. Mais quand on parle des thaumaturges, bien sûr, on parle de ces gens qui, de leur vivant, vont faire des miracles, ils vont être reconnus pour des miracles de guérison. Le frère André en était un. Peut-être le plus connu également au 20e siècle, là, si on regarde à l'échelle mondiale, si on exclut le frère André, qui est bien connu ici, c'est le Padre Pio, qui était un prêtre en Italie, qui était reconnu aussi pour avoir les marques de la crucifixion, qu'on appelle les stigmates. Donc, ouais. Souvent, du sang s'écoulait de ses mains. Bon. Et ces marques de la crucifixion, le Padre Pio les avait de manière tellement prononcée qu'à un moment donné, là où il se trouvait, où là, il officiait, on lui a demandé de ne plus officier, de ne plus dire la messe, parce qu'il attirait des fidèles uniquement pour que les gens puissent voir les marques de la crucifixion. Donc, ce Padre Pio, personnage célèbre dans la culture et la littérature religieuse, à la fois pour ses stigmates, mais également pour ses pouvoirs de thaumaturge.
Et il y a eu aussi, bon, Antoine de Padoue. Et oui. Là, concernant l'histoire du jeune enfant en 1990.
Oui.
Qui est guéri soudainement suite ouais. à ses parents qui sont allés se recueillir sur la tombe du ouais. frère André. Est-ce que c'est... Puis là, je veux faire attention, peser mes mots, mais je pense qu'on peut quand même poser la question. Est-ce que c'est réellement l'intervention du frère André? Il y a plein de facteurs qui peuvent être impliqués ici.
En fait, et là, tu marques peut-être dans le domaine religieux, c'est un peu tout le débat se trouve là. C'est-à-dire qu'au moment où on se parle, puis on l'a mentionné en l'Église, est très réservé lorsqu'il s'agit de miracles. Quand tu prends, par exemple, Lourdes, qui est peut-être l'endroit où on a rapporté le plus de guérisons miraculeuses, on rapporte quelques 7000 guérisons miraculeuses à Lourdes, il y en a seulement 69 qui ont été reconnues par l'Église. Parce qu'il faut des conditions très rigoureuses. Il faut que la maladie soit connue avant la guérison. Il faut que la guérison se fasse dans un contexte religieux. Il faut qu'elle soit immédiate, instantanée et éventuellement définitive. Et elle doit être documentée par un dossier médical. Donc, c'est difficile de réunir tous ces critères-là. Il y en a seulement 69 des 7000 qui ont été annoncés à Lourdes. Il y en a seulement 69 qui ont été reconnus. Et effectivement, la question, c'est de se demander à Lourdes, dans le cas de Lourdes, c'est l'endroit est associé à la Vierge Marie. Mais est-ce la Vierge Marie qui intervient, ou est-ce le pouvoir de la volonté? Donc, les gens croient tellement à l'idée d'une guérison qu'éventuellement, ils vont déclencher en eux des mécanismes de guérison. Ben, et là, tu l'as mentionné, Jeffrey, ouais. Il faut être excessivement prudent, parce que j'entends déjà d'ici la communauté médicale qui vont lever les boucliers en disant, attention, c'est vrai, on a des documents, on a une documentation qui montre bien de manière clinique que l'état psychologique d'un patient peut favoriser la guérison de certaines maladies, particulièrement des maladies d'ordre psychologique. Hein? Si t'es de bonne humeur, ça va aller mieux si t'as une dépression, là. Mais cet état, ces comportements, c'est une jambe brisée. Que tu sois de bonne humeur ou pas de bonne humeur, ça n'aura pas une grosse influence sur ta jambe brisée.
Jusqu'à maintenant, le consensus des études là, qu'on a fait là-dessus montre que l'état psychologique va pas influencer la guérison, par exemple, d'une maladie comme le cancer.
Absolument. Donc, c'est toujours des mots qui sont bénins, sur lesquels, bien sûr, on peut dire probablement que l'état psychologique du patient a aidé. Mais on comprend bien que des maladies graves, pour les médecins, et les données cliniques que l'on a en main ne permettent pas d'aller à l'encontre de cette affirmation, l'état psychologique du patient n'influencera pas, par exemple, l'évolution d'un cancer ou d'une maladie mortelle, la sclérose en plaques ou un truc comme ça.
Il y a des données cliniques qui sont manquantes. Lorsque, par exemple, un patient est atteint d'un cancer, mais qu'il n'est pas suivi par la médecine.
Là, tu viens de soulever un autre point très intéressant. Il y a quelques années, j'avais fait une série sur les reliques saintes et à un moment donné, une émission qu'on avait faite était sur cette question des miracles religieux. Et à un moment donné, je me suis retrouvé avec des cliniciens, des médecins, où on a abordé cette question des guérisons miraculeuses. Et il y avait consensus auprès des médecins en disant, vous savez, l'Église, elle ne dit pas, elle dit, bon, c'est une guérison miraculeuse, mais le comité miracle du Vatican, qui est composé de médecins, eux, ne crient pas au miracle de cette manière-là. Eux, ce qu'ils disent, il s'agit d'une guérison inexpliquée. Parce que, tu l'as mentionné, on a très peu de données sur l'évolution d'une maladie qui n'est pas traitée. Et on comprend que pour une raison humanitaire, un médecin peut pas dire, bon, ben, j'ai un patient qui a un cancer de la prostate, je ne le soignerai pas pour voir comment le cancer va évoluer. Donc, on ne sait pas, il nous manque des données cliniques. Est-ce que certaines maladies, de manière spontanée, comme le cancer, par exemple, pourraient entrer en phase de régression et finalement disparaître? On n'a pas beaucoup de données là-dessus, que ce soit un cancer, que ce soit d'autres maladies dégénératives, il manque de données. On a beaucoup de données sur quand on les soigne, ces maladies-là, comment elles réagissent, mais si elles ne sont pas soignées, on a quand même très peu de données. Et dans le cas des miracles, tu comprends, bien sûr, une fois que tu es passé à Lourdes et tu as fait une dévotion à la Vierge Marie, tu ne peux pas retourner chez toi et continuer à suivre des traitements, parce que là, qui t'a guéri, la Vierge Marie ou Jean Coutu? Tu comprends? Ouais. Donc, comme on est dans cette zone grise-là, il y a peu de données sur les maladies qui sont laissées à elles-mêmes. Donc, oui, guérison inexpliquée ou inexplicable, mais l'idée du miracle, on laisse ça entre les mains de la foi.
Et d'ailleurs, dans un instant, on va parler du modèle scientifique, Christian, qui est mal adapté aux phénomènes paranormaux.
Oui, bien sûr.
Vous écoutez Mythes et complots sur le réseau Cogeco.
Au réseau Cogeco, vous écoutez Mythes et complots avec l'enquêteur du paranormal, Christian Page et Jeffrey Soubrani.
Et je veux te mentionner, Christian, que depuis que j'anime avec toi, je suis un sujet très intéressant pour mes convives à la maison ou dans des discussions de toutes sortes, parce que je me mets à raconter les histoires ou les anecdotes qu'on entend sur les ondes.
Okay.
Et tout ça est très intéressant. D'ailleurs, les gens en redemandent en ce qui te concerne, et tu seras en conférence le 4 novembre à Montréal.
Oui, ça c'est amusant parce que ça rejoint un peu notre thématique du jour, c'est-à-dire que le 4 novembre au Centre Roussin à Montréal, je présenterai une conférence qui s'intitule « Paranormal, le paranormal à l'épreuve de la science ». Donc, on va vraiment essayer de décanter les informations que l'on a qui touchent différents phénomènes paranormaux, puis même un peu plus large, parce que, par exemple, le phénomène des ovnis n'est pas forcément un phénomène paranormal, mais quand même un phénomène inexpliqué. Donc, qu'est-ce que l'on a comme données exactes et qu'est-ce que l'on peut démontrer sur le plan de la science? Il existe une sorte de bras de fer entre ces croyances-là et le domaine de la science, et pourtant, à certains endroits, ils se rejoignent. Donc, on va essayer de regarder ça. C'est le 4 novembre prochain au Centre Roussin. Les gens pourront trouver toute l'information sur mon site web, le Christian page.ca.
Et le 8 novembre à Gatineau.
Oui, c'est le 18 novembre au cégep de l'Outaouais. Je serai donc à Gatineau pour y présenter les théories du complot, mon dernier ouvrage. Et ça va correspondre également avec la publication des derniers documents concernant l'affaire John F. Kennedy, dont on se fera une émission éventuellement. L'affaire JFK, qui est peut-être la mère de tous les complots, l'assassinat du président le 22 novembre 63. Et là, on va rendre public les derniers documents, quelques 3000 documents à peu près, qui seront rendus publics au cours des prochains jours. Donc ça, c'est le 18 novembre au cégep de l'Outaouais, à Gatineau.
Parfait. Ça a été confirmé par Trump cette semaine.
Oui, qui a accepté, lui, il a autorisé, en fait, les services de renseignement et de rendre public ces dossiers-là.
Et en conclusion, sur les guérisseurs, Christian, il faut parler de la science. D'abord, tu disais que la science n'aime pas les phénomènes qui flirtent avec le religieux.
Et on le comprend, oui, bien sûr.
Et le modèle scientifique est mal adapté aux phénomènes paranormaux.
Oui, ici, il faut être prudent aussi. Lorsqu'on a dit le modèle scientifique est mal adapté, on ne jette pas la pierre, là. Faut bien comprendre que le modèle scientifique que l'on a est un très bon modèle, bien sûr. C'est un modèle qui nous a permis de passer de l'obscurité à la lumière, ça nous a permis d'envoyer des hommes sur la Lune et tout le reste. Oui. C'est un excellent modèle. Il fonctionne bien, mais il est peut-être parfois mal adapté à certains types de phénomènes, comme les phénomènes spontanés ou les phénomènes uniques qu'on retrouve souvent dans le cadre des phénomènes paranormaux. Parce qu'il faut savoir qu'en science, l'évaluation d'un phénomène se fait en 5 étapes. La première étape, c'est l'observation. Je vois que quelque chose se passe. La deuxième étape, c'est j'émets une hypothèse. Pourquoi ça se passe comme ça? Troisième étape, je vérifie l'hypothèse. Et une fois que j'ai vérifié mon hypothèse, j'émets une théorie. La théorie, c'est la mécanique. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et ensuite, je vérifie la théorie. Donc, on a 5 étapes pour dire ce phénomène-là répond aux règles de la science. Le problème avec les phénomènes paranormaux, on dépasse jamais l'étape numéro 1.
Donc, on peut jamais expliquer quoi que ce soit.
On voit que quelque chose se passe, comme dans les expériences de Bernard Grant, comme dans les expériences du projet Stargate, comme dans le cas des médiums, les voyants, pardon, qui travaillent avec les services de police. Il y a quelque chose qui se passe. Oui. Mais à partir du moment où tu as observé que quelque chose se passe, la science te dit, OK, on a une étape supplémentaire, émettons une hypothèse. Alors là, l'hypothèse, on est complètement abasourdi par ça, parce qu'on se dit, OK, l'hypothèse, c'est quoi? Il y a de l'énergie psychique. Il n'y a aucun moyen de démontrer l'existence de l'énergie psychique. Donc, tu vois, on est vraiment là, dans une zone excessivement grise. Et là, ça devient finalement un débat entre les croyants et les non-croyants, à savoir, est-ce que oui ou non, ces phénomènes-là relèvent de la réalité? Et comme on n'a pas de modèle scientifique bien adapté pour pouvoir les encadrer, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les étudier en utilisant le modèle scientifique. Mais il faut comprendre que le modèle scientifique a quand même ses limites. Et ce qui n'est pas prouvé par la science n'est pas forcément faux. Mais on se rappelle que si ce n'est pas prouvé par la science, il faut quand même rester prudent.
Et on admet l'inexplicable dans plusieurs disciplines, la médecine, l'astrophysique, mais en ce qui a trait aux phénomènes empiriques, tout ce qui est humain, paranormal...
C'est plus difficile.
C'est plus difficile.
Tu le mentionnes bien. C'est-à-dire que quand on regarde dans le cas des phénomènes paranormaux, on a des preuves statistiques. Alors, donc, les preuves statistiques, on les accepte, par exemple, lorsqu'il s'agit de tester des médicaments. On accepte également les preuves statistiques lorsqu'on parle de la physique ou de l'astronomie, mais on refuse systématiquement les preuves, ce genre de preuves en science lorsqu'il s'agit de phénomènes paranormaux.
Alors, est-ce que le fait d'être animé d'un espoir exceptionnel dans le cas d'une guérison miraculeuse peut influencer le circuit dopaminergique du cerveau et favoriser une auto-guérison?
Pourquoi
on peut se poser cette question-là en fin d'émission quand même sur les guérisseurs. Christian, merci.
Ça a été un plaisir, Jeffrey.
Merci à vous. On remet le tout la semaine prochaine, 14h, sur le réseau Cogeco. Portez-vous bien.